On va dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et je vous inviterai à faire deux lectures dans Luc et dans Marc pour le même récit. Et vous noterez la petite différence, c'est un détail. Mais parfois, les détails sont parlants. Petite différence qu'il y a entre Luc 8 et Marc 4. Luc chapitre 8, verset 22. Luc chapitre 8 et verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Marc chapitre 4. Quasiment le même récit, un tout petit détail, à vous de le repérer. Mais on ne va pas rester sur le détail. Hein. C'est juste pour capter un peu plus l'attention. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord, sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors le petit détail, c'est le coussin. Voilà. Marc a retenu, et ceux qui lui ont rapporté le récit, l'ont retenu aussi, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est quand même un peu fort. Eux, ils sont en train d'être en perdition, et ce sont quand même des professionnels de la pêche, voire même de la pêche de nuit, puisque Pierre l'avait dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc le lac de Génézareth, qui est vaste et qui reçoit des coups de vent de temps en temps, ils étaient habitués, mais là c'est fort de chez fort, et ils sont en perdition, et lui, il dort sur le coussin. Et Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Pour quelle raison? Et on va reprendre tout cela. Pour quelle raison? Parce que le récit est simple, hein, j'oserais même dire, c'est un petit peu banal. Il traverse le lac. Quoi de plus banal? Et une difficulté tombe qui proportionnellement surprend tout le monde, mais pourquoi un tel problème? Et ça aussi, c'est banal dans ce sens habituel. Dans nos vies, il nous arrive des fois, parfois, des coups durs qui nous tombent dessus, alors qu'on est en train de rien faire de particulier en soi. On traverse le lac. Mais le Seigneur est celui qui veille. Pourquoi traverse-t-il le lac? Eh bien, dans Luc, c'est écrit. On fait un zoom arrière, un zoom avant. Rappelez-vous les règles de méditation et d'interprétation des Écritures. Là, on a fait un zoom avant sur un petit récit, traversé du lac, by night. Maintenant, on fait un zoom arrière. Ça s'inscrit dans l'évangile de Luc au chapitre 8, qui commence ainsi. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur fait parce qu'il en est conscient. Et nous ne le réalisons pas à ce moment-là. L'acuité, l'importance des choses de nos vies qui vont nous arriver, que nous ne voyons pas encore à ce jour, mais qui vont nous arriver, mais Dieu qui voit tout, il a une acuité exceptionnelle, les voit, et au préalable, il vient vers nous. Ce que Jésus a vu, que personne n'a vu, c'est la suite. On fait toujours un zoom arrière, mais on va de l'autre côté du lac. Lorsqu'ils abordèrent, verset 26, dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Et Jésus l'a vu. Il faut aller lui parler, il faut aller le rencontrer. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Entre parenthèses, les démons savent pour l'éternité ce qui va leur arriver. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. On va à la fin du récit. Les versets 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, parce que Jésus va délivrer cet homme. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Il était donc venu pour cela. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Amen. Et voilà pourquoi il y a une tempête qui se lève d'un seul coup sur ce lac pendant la nuit. C'est parce que Jésus sait pourquoi il va là-bas. Et l'œuvre de l'ennemi sera toujours d'aller à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Sauf que, à la fin, l'œuvre de Dieu prévaudra toujours. Et la bénédiction de Dieu prendra le dessus sur toutes les difficultés. Parce que Jésus allait de ville en ville, on va être extrapolé, il allait de maison en maison, il allait de personne en personne, il rencontrait les gens, soit en foule, soit en particulier. Et là, il y a quelqu'un qui est hors norme. Et le Seigneur est capable d'aller faire du bien à celui qui est hors norme. Et pour le coup, il l'était, vivant dans les sépulcres, tout nu, et quand de temps en temps on le liait de chaînes, il brisait tout. Tout le monde avait peur de lui. Mais quand vous relirez le récit, quand Jésus vient, rien n'empêche cet homme de venir au pied de Jésus, la délivrance a lieu. Frères et sœurs, c'est juste une parenthèse, jamais personne ne sera empêché par quoi que ce soit et qui que ce soit de venir au Seigneur. Si quelqu'un ne vient pas vers Dieu, ce n'est pas parce qu'il a un empêchement majeur, c'est parce qu'il ne le veut pas. Parce que lui qui avait un empêchement plutôt majeur, ça ne l'a pas empêché de venir vers le Seigneur Jésus. Et Jésus allait, il doit aller à Gadara, pays des Géraséniens ou des Gadaréniens, suivant la traduction, mais lui seul le sait. Le Seigneur doit venir dans votre vie, dans ma vie, et lui seul le sait. Pour le moment, moi, je ne le sais pas. Je ne veux pas dire que nous faisions partie de la catégorie des possédés à ce niveau-là, mais nous faisions tous partie de ceux qui étaient sans Dieu. Ça, c'est vrai. Et nous ne savions pas jusqu'à quel point nous avions besoin de lui, mais lui le savait. Il est venu de ville en ville, de village en village et de personne en personne pour nous parler. Et à un moment donné, dans un moment comme ça, dans une église, la parole de Dieu a touché notre cœur. Jésus vient pour bénir et rien d'autre. Et cet exemple est extraordinaire, il ne fait l'aller-retour que pour ça. Quelle grâce ! Le Seigneur a fait l'aller-retour du ciel sur la terre pour venir nous chercher et nous sauver. J'oserais dire rien que ça. Mais comme il y a tout, il ne manque plus rien d'autre. Passons de l'autre côté. Il faut franchir l'obstacle. Il faut franchir la difficulté. Nous avons construit des moyens, nous nous sommes trouvés toujours des solutions pour franchir les obstacles qui sont devant nous. Un lac, c'est quand même un obstacle, surtout un lac pareil. À la nage, ça fait un peu long. Donc, on a construit des barques. Nous avons tous essayé de trouver des solutions pour nous en sortir dans les situations que nous traversons. Mais le Seigneur est celui qui est capable de venir avec nous, dans nos solutions, dans nos situations. Et tant qu'on ne lui demande rien, il ne fait rien. En l'occurrence, il dort. Ça, j'ai trouvé que c'était fort. Je ne sais pas, vous et moi, si nous aurions dormi. Parce que les professionnels de la pêche ne dorment pas. Alors je pense que je n'aurais pas dormi non plus. Jésus dort, et dans l'évangile de Marc, il y a le petit détail qui vous décontenance totalement sur un coussin. C'est pas possible. Et parfois, nous en serions presque à penser un peu comme cela. Seigneur, tu es dans ton ciel de gloire. Je sais que là-haut, pour garder l'image du coussin, c'est impeccable. Là-haut, c'est la sérénité absolue. Mais ici, en bas, ça souffle. Mais Seigneur, mais tu t'inquiètes pas de ce qui m'arrive, de ce qui tombe sur moi? Jésus s'endormit. C'est un sommeil physique. Ça veut dire qu'à notre appréciation humaine, physiquement, il dort. Mais l'Écriture nous dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est écrit dans le livre des Psaumes. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur son peuple. Physiquement, il dort. Physiquement, vous avez l'impression, j'ai l'impression que le Seigneur ne fait rien, ne parle pas, n'intervient pas, est en sommeil d'une certaine manière. Mais c'est un petit peu comme aujourd'hui avec tous nos appareils, ils sont en sommeil, mais tac, d'un seul coup, ils sont réveillés et efficaces et opérationnels en totalité. Et si vous me permettez de garder cette image, le Seigneur de temps en temps est en veille, en mode veille, parce qu'on l'a mis en mode veille. C'est à nous de réveiller. Nous l'avons mis en mode sommeil. Bon, ben vous voulez traverser le lac, il n'y a pas de problème. C'est votre barque, c'est votre affaire, c'est votre métier, etc. Il n'y a pas de souci, hein? Pas de souci. Mais prenez le Seigneur avec vous. Et quand la tempête va tomber dessus, que vous allez vous adresser à lui, vous allez le voir se relever d'un seul coup, commander à la mer, commander au vent, et tout va se calmer. Et le Seigneur que nous avons réveillé, il va nous réveiller aussi. Et où est votre foi? Je suis avec vous, vous avez peur. C'est pas compatible cette situation-là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et parfois, de temps en temps, nous avons chaud, nous avons peur, nous ne nous sentons pas bien du tout, parce qu'on a mis le Seigneur en mode veille, en mode sommeil. Mais si nous l'interpellons, si nous nous adressons à lui avec précision, parfois, quand on s'adresse à lui, on le fait un peu comme les disciples, hein. On lui fait un petit reproche. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, parce que eux, ils voient que ça va devenir irrécupérable la situation. Et le Seigneur de s'adresser à tout le monde et de renvoyer un petit peu le compliment. Mais où est votre foi? Pourquoi vous inquiétez? Je suis avec vous, je ne suis pas avec vous. Oui, finalement, tu es avec nous. On aurait dû te réveiller autrement. Seigneur, ça nous dépasse. Interviens. Seigneur, je n'y arrive plus seul. Aide-moi. Il n'y a pas de reproche. Et je suis sûr que quand on s'adresse au Seigneur sans version reproche, il nous répond sans version reproche. Mais de temps en temps, le Seigneur est comme nous, parce qu'il est quand même l'éternel Dieu. Et quand quelqu'un s'adresse à nous en nous faisant petite pique au passage, nous lui répondons gentiment avec petite pique au passage. Histoire de dire, bon, écoute, je ne suis quand même pas ton copain, tu ne t'adresses pas à moi comme cela. Mais bon, ça c'est moi qui le dis. Je ne me permets pas de dire que le Seigneur nous répond avec des petites piques au passage, mais dans tous les cas, il les a interpellés. Mais où est votre foi? Parce qu'en fait, dans cette situation-là, le seul point qui est fondamental pour nous, c'est jusqu'où va notre confiance en Dieu. Parce que si je me limitais simplement à dire, Seigneur, tu es grand, tu as vu de l'autre côté du lac celui qui ne pouvait pas venir à toi, celui qui était dans une situation inextricable, que personne ne pouvait aider. Tu étais le seul à le faire, tu le vois, tu y vas. Quelque chose d'extraordinaire et tout le monde dit Amen. Sauf qu'au passage, c'est à nous que le Seigneur s'adresse. Et où est votre foi? Et où est votre foi? Où est votre confiance en Dieu? Ma confiance en Dieu ne peut pas être en dents de scie. J'ai confiance, j'ai moins confiance. J'ai confiance, j'ai moins confiance. Le Seigneur est avec moi, mais moi je suis comme ça. Ce serait bien d'arriver comme ça, avoir une constance dans notre confiance en Dieu, et pas au point 0, au point 1, au point 2, au point 3, dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur est venu pour s'approcher de ceux qui ont besoin de lui. Alors, dans la même idée, puisque faut pas dévier, dans la même idée, il va passer à Jéricho. Il y a un homme qui va grimper sur un arbre, Zachée, et Jésus va rentrer dans sa maison. Il est venu pour que tous ceux qui ne venaient pas facilement vers lui, tous ceux qui ne pouvaient peut-être même pas venir à lui pour différentes raisons, aient la possibilité d'être sauvés. La bénédiction de Dieu, rien ne l'empêchera de venir jusqu'à nous. Je le redis, la bénédiction de Dieu pour nous, rien ne l'empêchera d'arriver jusqu'à nous. Ça, c'est une grâce. Et la plupart d'entre nous ne le cherchions pas, mais il a traversé le lac. Il a quitté le ciel de gloire, il est venu sur la terre des hommes. Il a fallu passer par la croix, il est passé par la croix. Il a fallu condamner le péché, l'effacer. Il a condamné le péché, il a pris sur lui la condamnation et il l'a effacé. Il a fallu vaincre la mort qui ne faisait pas partie de son œuvre. Il est mort, il est ressuscité, il a remporté la victoire pour nous. Et quand Jésus s'adresse à vous, s'adresse à moi, il a tout dans ses mains. Ça a l'air de rien, mais il est là et il a tout dans ses mains. Pour nous le donner gracieusement, on va amener vers Jésus un homme paralysé. Alors on connaît le récit, ils vont le faire descendre avec des cordes, quatre cordes, pour le placer sous le regard du Seigneur. Et le Seigneur va s'occuper de cette situation de A jusqu'à Z. Il va commencer par A, qui n'est pas le vôtre et le mien, le A de Dieu. Nous, en général, notre A, c'est le Z. Cet homme est paralysé et pécheur. Pour nous, le A, c'est le paralytique. La paralysie, pardon. C'est son problème de santé, c'est ça qui est en premier. Et le Seigneur dit, pour moi, ça, c'est le Z. Ce qui est en premier, c'est votre état d'âme. C'est votre état de cœur, c'est le péché qui vous sépare de moi. Et le reste dans votre vie, j'oserais dire, vous comprenez, c'est plus facile à régler. Parce que pour le péché, il doit donner sa vie en sacrifice. Pour guérir, pour aider, il dit un mot et ça se fait. Dans ce sens où il n'a pas de prix particulièrement à payer, il est le Tout-Puissant, ce qu'il dit, ça se fait. Ce qu'il veut se réalise. Mais pour effacer le péché, pour pardonner le péché, c'est pas parce qu'il le dit que ça se fait. C'est pas parce qu'il le veut que ça se fait. C'est parce qu'il est venu sur la croix pour donner sa vie que ça s'est fait. Alors le A de Dieu n'est pas le nôtre, à cause du prix que ça lui a coûté. Et pour le Seigneur, le A, c'est la situation de cœur, c'est l'état d'âme séparé de Dieu pour l'éternité. Il faut régler cela d'abord. Et ensuite, le Seigneur va s'occuper de la paralysie de cet homme. Il ne vient pas pour rien. Et le Seigneur reste tant qu'on le lui accorde, tant qu'on le lui permet, tant qu'on le lui demande. Vous avez vu, pour l'histoire, il va de l'autre côté du lac. Il traverse une situation difficile qui a fait perdre pied à des professionnels. Et arrivé de l'autre côté, les gens se réunissent et lui disent « tu repars ». Je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire des efforts importants pour aller aider quelqu'un. Et... lui, vous l'aidez, tous les autres vous disent « bon, maintenant, ça suffit, tu repars ». Vous avez envie de dire « non, mais attends, ce que ça m'a coûté dans tous les domaines, y compris financier, juste pour ça et repartir ?» Eh oui. Mais le Seigneur, parfois, nous le logeons à la même enseigne. Il a tout accompli, et il y en a qui lui disent « Seigneur, tu repars ». Et ils ne lui disent pas « Seigneur, tu repars » parce qu'ils ne croient pas en lui. Ce qu'ils ont vu les bouleverse. Ils bouleversent. Il est capable de délivrer le démoniaque. Il est capable de faire des choses extraordinaires, Seigneur, mais... moi, je ne veux pas que tu interviennes dans ma vie. Mes frères et sœurs, ne soyons pas surpris. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu la grâce de Dieu et ils n'en veulent pas. Ça peut être ahurissant, mais c'est la triste réalité parfois. Alors le Seigneur va retraverser le lac et partir de l'autre côté. Et ce que nous avons à retenir, c'est qu'il est capable de tout. Je ne vais pas être trop long pour conclure. Il est capable de tout. Il est capable de quitter le ciel de gloire et de venir jusqu'à nous. Il prend la barque, traverse le lac. Il est capable d'affronter et de régler toutes les difficultés chemin faisant, y compris la croix, parce qu'il doit y passer, pour que celui qui va s'adresser à lui comme le brigand, qui va dire « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », puisse avoir une réponse. Autrement dit, quand le Seigneur vient à vous, à moi, il peut répondre à tout, parce qu'il a tout préparé à l'avance. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Il commande aux éléments, à la mer et au vent. Et si on prend d'autres exemples, il va commander aux animaux. Alors je vous le dis parce que c'est important de réaliser cela, mais en même temps, on va prendre une baffe au passage. Comment se fait-il que je laisse le Seigneur commander aux éléments, la tempête, le vent, commander aux animaux et ne rien faire dans ma vie? Il commande aux animaux. La pêche miraculeuse, il va commander les poissons. Mettez-vous, si vous avez des poissons dans votre bocal à la maison, mettez-vous devant le bocal et faites-leur faire quelque chose. Et quand vous y arrivez, franchement, on va parler de vous aux informations. Faites-leur faire quelque chose à ces poissons. Il commande aux corbeaux. Il va commander aux corbeaux de nourrir Élie. Ça a l'air de rien, c'est un miracle grandiose. Certains ont réussi un petit peu à apprivoiser... des pies et des corneilles, voilà, Corbeau, je ne sais pas trop. Mais on sait une chose, le corbeau, si vous lui donnez un bout de viande, je le vois mal le transporter et le déposer pour nourrir un homme. Et il va prendre de la viande. Alors, on va aller au bout de l'image. Il a ses capteurs olfactifs là, juste à côté du bout de viande. Et il doit voler en se disant, touche pas. Ouais, mais Dieu nous reprend avec cette affaire-là. Il est capable de diriger un corbeau, mais il a du mal avec nous. Et nous, un corbeau, alors, c'est mission impossible. Comme quoi, parfois, le Seigneur, au travers des exemples qu'il a pris, il nous interpelle, il nous dit, mais je peux tout faire, quasiment avec tout, sauf avec l'homme. Avec l'homme, combien c'est compliqué. Avec la femme, hein, parce que comme ça, c'est équilibré. Combien c'est difficile. Ce que je dis, ne l'écoute pas. Ce que je dis, ne le crois pas. Où est votre foi? Et même quand je suis avec eux, de temps en temps, il faut que je les récupère en catastrophe. Alors que je suis capable de calmer le vent, la tempête, de calmer les flots, de diriger les corbeaux en leur disant, tu touches pas. Tu touches pas. Tu vas nourrir le prophète Élie de la viande et du pain. Et tu touches pas. Alors, relisez cela dans le livre du prophète Samuel. Dans le livre des rois, pardon, livre des rois, et imaginez-vous le corbeau qui va chercher un bout de viande, parce que je ne sais pas combien il vous en faut de bouts de viande pour être nourri tous les jours. Le corbeau, on va peut-être essayer de se renseigner, savoir combien il peut porter en poids, mais dans tous les cas, il a dû faire quelques allers-retours. Tu touches pas, tu touches pas, tu touches pas. Dans sa petite tête, tu touches pas, tu touches pas. Il est dirigé par Dieu. Et moi, je me dis, Seigneur. Quand je lis un passage comme ça qui pourrait passer de manière anodine, tu as tout dompté, tu as tout dirigé pour aller délivrer un homme, et il y en a à côté qui n'en ont pas voulu. Que ce matin, nous ne fassions pas partie de ceux qui voient la bénédiction de Dieu à côté et qui la refuseraient. Acceptons la bénédiction de Dieu. Rendez compte qu'il a séparé la mer Rouge pour que son peuple passe. C'est extraordinaire. Il est capable de tout, le Seigneur. Il a fait tomber la manne et l'écaille pendant 40 ans. Au début, c'était extraordinaire. À la fin, le peuple disait, on a assez. Oui, mes frères et sœurs, moi, si on pouvait un instant se mettre à la place du Seigneur, je crois que nous dirions, Seigneur, non, reprends ta place. Parce que c'est trop fatigant de venir chercher, sauver ceux qui sont perdus. C'est trop pénible. On fait des efforts incroyables. Ils n'en veulent pas. Je les bénis tous les jours. À la fin, ils disent, oh, c'est un peu banal. Je suis avec vous, avec nous. Il est avec nous, pardon, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parfois, on le met en mode veille, on le met en mode sommeil. Et puis, d'un seul coup, on se réveille, parce que la situation nous réveille, nous aussi. Alors, ah, Seigneur, dans quelle situation je suis, mais tu ne l'as pas vu? Et un peu de respect, si vous me permettez de le dire comme ça. Il l'a vu. On ne lui a rien demandé. Alors, il laisse. Il laisse les choses aller, il laisse les choses éventuellement même déraper, parce que de toute façon, un mot de sa part, un claquement de doigts, et tout s'arrête. Le Seigneur n'a aucun problème, et je termine là, il n'a aucun problème avec tout, le seul problème qu'il a, c'est avec nous. Alors, ne soyons plus des obstacles à la bénédiction de Dieu. Où est notre confiance en Dieu? Si notre confiance en Dieu est comme un grain de sénévé, vous connaissez la suite, alors Seigneur, aide-nous à progresser. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Que notre prière ne soit même pas « Seigneur, augmente-nous la foi », parce que tous ceux qui ont prié comme cela ont rencontré des obstacles. Parce que c'est au travers des obstacles que la foi grandit. Alors, si vous dites « Seigneur, augmente-nous la foi », soyez pas étonnés demain, dans la semaine, d'avoir quelques difficultés qui vont vous amener, et c'est l'effet induit des difficultés, à nous approcher un peu plus près du Seigneur et lui dire « Seigneur, que dois-je faire? Aide-moi !» Et là, notre foi va se consolider, notre foi va se fortifier. Et épreuve après épreuve, situation après situation, remportée avec la grâce de Dieu, eh bien, nous allons devenir des hommes et des femmes de foi. Je suis sûr que la nuit d'après, dans le même cas de figure, voyant la tempête se lever, voir l'eau commençant à remplir la barque, ils ont dû se dire, maintenant on sait. Ça ne sert à rien de perdre pied. Seigneur, parle. Seigneur, étends ta main. Seigneur, interviens. Alors, il y aura toujours la première fois où on perd pied. Mais la seconde fois, on ne perd plus pied. Et le Seigneur est celui qui va nous faire des pas. C'est le premier. le plus difficile, d'ailleurs, dans tous les domaines. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Mais quand on le fait avec le Seigneur qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, je vous assure que ceux d'après, ils sont moins difficiles à faire. Faites le pas de la foi. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu, répondez à l'appel de Dieu, obéissez à ce que le Seigneur dit. Ne vous limitez pas à l'entendre, mais maintenant il faut se mettre en action, il faut se mettre en action dans notre vie et dire Seigneur, mais maintenant je crois en toi et je t'obéis et je te suis. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, au travers de ta parole ce matin, tu t'adresses à chacune, à chacun d'entre nous. Et la situation que traverse l'un ou l'autre, non seulement tu la connais depuis longtemps, mais un mot de ta part et tout change. Je te prie, Seigneur, de bénir, fortifier mon frère, ma sœur, afin qu'il s'adresse à toi pour obtenir cette parole qui vient de toi, pour obtenir cette intervention de ta part. Et d'avance, je te dis merci parce que tu le feras. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni.